Biston klack, biston klack, biston klack, nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre, cette phrase est notre devise. Notre devise, biston klack, biston klack, biston klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie, tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre, voilà notre philosophie. Philosophie, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
C'était cette retraite, cet argent qu'on ne
c'était
pouvait pas prendre.
C'était l'argent de la retraite qui posait
moi,
problème.
Nous, on a dit, moi j'ai dit que cet argent, il était, j'aime pas dire qu'il était sale, parce que s'il est sale, tu ne peux pas le donner aux autres. Et cet argent est taché de sang, il est taché de tous ces cris d'horreur qu'on a entendus, de cris de torture, il est taché de cette misère, de cette mort qu'on a vue. Et cet argent, moi, je ne peux pas prendre cet argent pour faire des cadeaux de Noël à mes petits-enfants. Tu vois. Je préfère ne pas y en faire, tu vois, si je dois le faire avec cet argent. Voilà, au début, c'était ça.
Messieurs, dans vos régimes à galons, combien sont-ils, je vous demande, messieurs, dans vos exils, dans vos prisons, leur reste-t-il un peu d'espoir au cœur de résister à la question? Combien faut-il pour les tourmentes, messieurs, pour qu'ils tombent sous vos talons? Combien faut-il qu'ils se lamentent, messieurs, pour ne plus comprendre leur nom? Leur reste-t-il une mémoire des leurs, un souvenir ou un prénom? Combien faut-il pour les tortures, messieurs, pour qu'ils soient sourds à vos injures? Combien faut-il qu'ils endurent, messieurs, pour n'être plus qu'une blessure? Leur reste-t-il un verre à boire, une heure à vivre avant l'exécution? Combien faut-il pour les tourmentes, messieurs, ces ouvriers de l'espérance? Combien faut-il pour leur faire rendre, messieurs, le cœur, la tête et l'allaitance? Combien faut-il que ça se vende, les cieux, pour que l'Église taise leur nom? Combien sont-ils à ne plus tendre, messieurs, qu'un regard vide à vos questions? Combien sont-ils à vous entendre, messieurs, à l'heure du dernier frisson? Leur reste-t-il un peu de viande aux yeux, un peu de cils et de raison? Combien sont-ils, je me demande, messieurs, dans vos régimes à galons? Combien sont-ils, je vous demande, messieurs, moi je vous pose la question.
Frémissaire est un des 1 343 000 jeunes Français appelés qui, entre 1956 et 1962, ont été envoyés combattre en Algérie dans ce qui n'est devenu officiellement une guerre que le 5 octobre 1999. Plus de 13 000 de ces appelés rentreront en métropole dans un cercueil. Environ 13 000 autres militaires de carrière aussi. Les victimes algériennes de la guerre sont à chiffrer vraisemblablement entre 300 et 400 000 morts. 50 ans après, étonnamment, les chiffres autour de cette guerre ne font toujours pas l'unanimité. La quasi-totalité des jeunes Français envoyés là-bas en sont revenus traumatisés à de multiples titres, ne se sont jamais remis et ne se remettront jamais de cette expérience douloureuse qu'on leur a imposée et qui reste largement passée sous silence plus de 50 ans après. Ce qui fait la singularité de Rémissaire, c'est que 45 ans après, âgé de 65 ans, au moment de toucher sa retraite de combattant, il s'est rendu compte que cela lui était moralement impossible. Dès lors, il s'engagea avec trois autres anciens combattants de la guerre d'Algérie de sa région, Georges Trélou, Armand Vernette et Michel Delceau, dans la création d'une association pacifiste, association des anciens appelés en Algérie contre la guerre, dite aussi 4ACG. Avec pour objectif d'y reverser l'argent de leur retraite pour l'utiliser à des opérations de réconciliation entre les peuples et d'aide à des projets de développement, en particulier en Algérie, en Palestine et au Maroc. Dans cette deuxième émission consacrée à Rémissaire, il évoquera la suite de ce qui fut sa guerre d'Algérie, puis comment, 45 ans après, il en est venu à être l'initiateur de la création de l'association 4ACG, Association des anciens appelés en Algérie contre la guerre. Je vous propose de retrouver Rémissaire au fil de notre entretien. Merci de votre attention et bonne écoute. Et au niveau des exactions, vous en avez vu beaucoup, je pense aux... Bon, les tortures, bien sûr, les incendies de villages avec les lance-flammes, ce genre de choses, vous avez connu aussi, non ?
Oh, moi j'ai vu des traitements de prisonniers, j'ai vu des gens attachés au poteau et on demandait un volontaire pour les tuer. Mais ils ne se trompaient pas, ils ne demandaient pas à n'importe qui, ils ne m'ont jamais demandé. Et après j'ai vu la torture, oui, j'ai entendu des cris, J'ai vu le gamin à qui on faisait l'école, que l'instituteur il t'a mis un bonbon. Il a dit, je ne veux pas le bonbon. Il dit pourquoi tu prends un bonbon? Parce que hier vous avez tué mon père. Et j'ai vu l'épicier du village, qui à tort ou à raison a été accusé de ravitailler le Kendaga. Un vrai cavil, quoi, une carrure, quoi, là, costaud, à la force de l'âge, quoi. Et je vais le voir le lendemain, il y en avait une petite prison, un poste, là, où on mettait les gens en attendant qu'ils aillent ailleurs ou qu'ils soient morts. Et moi, j'aimais bien d'aller leur porter à boire, leur porter à manger, mais il fallait pas sonner le clairon, hein. Il fallait se cacher. Et donc, quand tu portais à boire quelqu'un qui était assoiffé, la conversation venait vite, tu comprenais que tu venais pas pour le torturer. Et alors ce gars-là, je l'ai vu méconnaissable, quoi. J'étais méconnaissable. Donc je lui ai dit alors. Et il me dit, alors, il me dit, j'ai fait une connerie, il me dit le sergent m'a donné un coup de poing, qui en est rendu. Il me dit, je l'ai payé très cher. Et voilà, et ce gars-là était c'est méconnaissable, quoi. Tu sais plus, il a des bleus partout. À l'époque du temps, il n'a plus d'habits, là. Voilà. J'ai vu un autre gars qu'on fait prisonnier, un gars d'un âge certain, qui avait 50 ans, et qui, sous la torture, avait dit, je connais des caches. Et puis on nous fait descendre là-bas, loin, à pied, bien sûr. Et puis là, il faisait semblant de chercher cette cache, où il ne la trouvait pas, où elle n'existait pas. Et j'ai vu un lieutenant, un Corse, s'acharner sur lui, j'ai dit, un adjudant. Mais moi, taper quelqu'un comme ça, mais j'ai conduit des bêtes toute ma vie, j'ai jamais tapé une bête comme ça. Et puis on entendait aussi dans l'arrière-salle, là où ça peut faire la torture, on n'avait pas le droit d'aller parce que quand même ils n'étaient pas tellement à l'aise de faire ça, je sais pas. Ils entendaient des hurlements, des gémissements. Et un matin, on part en opération avec un prisonnier qui avait été torturé. Et soi-disant qu'il nous a amené à une cache aussi. Et alors ce gars-là, il était défiguré, tu voyais plus rien. Et alors, nous, on se posait des questions, et on se dit qu'est-ce qu'ils ont inventé encore, parce que d'habitude, on ne voyait pas ce genre de torture. Et alors, ils s'en vantaient, quoi, si tu veux dire, pas voulu parler, et l'adjudant l'a pris sur le bras, c'était un petit bonhomme. Et il a mis la tête dans les flammes de la cheminée pour qu'il parle, quoi, c'est tout, il allait de partout. Et ça, je l'ai vu, moi. Après, j'ai lu, j'ai vu la femme aussi, le chef de garde. Et quand on est caporal, on ne monte pas à la garde. On fait le tour des sentinelles. Disons, je faisais le tour des sentinelles, et puis tout d'un coup, je passe à côté de l'endroit où on torturait les gens. Et je vois une femme accroupie là, toute nue, au cours de l'automne, une nuit glaciale. Et pareil, je ne suis pas bien fort, moi aussi, j'aurais pu aller chercher une couverture, la mettre dessus, j'ai rien fait. Donc je dis que voilà, à ma façon, j'ai consenti à cette torture. Et puis le lendemain, j'ai demandé au gars pareil, le gars qui s'est intéressé vraiment à la torture qu'il avait faite, il dit, elle ne voulait pas parler, on l'a arrosé d'eau froide, on l'a mis dehors.
Comme une vision divine, radieuse, une surimpression qui s'ajoute au tableau. Ta silhouette est là, embrumée d'un halo, comme on voyait jadis sur les images pieuses. Paraît que Jamila, ça signifie la belle, limpide traduction, pléonasme élégant, le thème ou la version, ça te va comme un gant. La belle Jamila, Jamila la rebelle. Au sous-sol d'Elbiar, ils traînaient leur capture. On surnommait aussi l'endroit centre de tri. Quelques soldats chantaient pour étouffer les cris de ceux qu'on remontait, meurtris par la torture. Ceux qui t'ont abîmé de manière indicible, tu les reconnaîtrais sur la moindre photo. Mais le juge impartial te demande plutôt de délivrer leur nom. La cour est impassible, Jamila. On fait taire les voix, on censure les lignes de Sagan Signoret à limite de Beauvoir ou Germaine Tillon dont le crime est d'avoir dénoncé haut et fort ces pratiques indignes. On t'éloigne d'Alger, on se voile la face. Au-delà de la mer, loin du cœur, loin des yeux, de barbe rousse à peau et de frêne à lisieux, croit-on qu'en voyageant, le souvenir s'efface. On te relâche enfin au seuil de la victoire, mais dès le lendemain du grand référendum, les hommes te prieront de quitter le forum comme s'ils étaient seuls à écrire l'histoire, Jamila. Ma
madame à la maison, monsieur gagne la guerre. Tout sera comme avant, selon l'ordre établi. Elle aura des petits dans l'ombre, dans l'oubli. Qu'importe les combats, qu'elle entreprit naguère. Que sont-ils devenus, bourreaux et tortionnaires, joyeux drilles, artisans, notables, intelligents, médecins réputés, arbitres intransigeants, ou grand-père idéal, amnésique ordinaire. Je pense à leurs enfants, le mal que je leur souhaite, c'est d'avoir dans l'esprit, loin de ces philistins, plein d'espoir et d'envie, de changer le destin, la soif de devenir utopiste poète, Jamila. Jusqu'à toi déchire le silence pour apaiser un peu l'inusable douleur. Que mon chant jusqu'à toi déchire le silence pour apaiser un peu l'inusable douleur. C'est comme une vision divine, radieuse, une surimpression qui s'ajoute au tableau. Ta silhouette est là, embrumée d'un halo, comme on voyait jadis sur les images pieuses, Jamila.
C'était des gens de la compagnie qui pratiquaient ces tortures, ou il venait des gens d'ailleurs?
Il y avait des gens de la compagnie, et il y avait un certain Mouloud qui était, c'était un Algérien. Un Algérien, un peu, c'était pas un artiste. Il faisait interprète et en même temps il donne la main. Quoi. Et après il y avait ce corse, c'était en Corse là que j'ai perdu le nom. Il y avait un commandant corse qui s'appelait De Peretti, on l'appelait Pépon. Lui, quand il chopait un prisonnier de la nature, lui, il commençait avec le poignard. Il commençait à enfoncer le poignard comme ça, et il disait, tu parleras ou tu parleras pas. C'était la première torture, et après, je ne veux pas savoir tout ce que... Et après, il s'était trié, ces prisonniers. S'il y avait une tête, un type qu'on pensait qui était capable de dire plus et de faire avancer la cause, entre guillemets, on l'envoyait au top. Vous avez tous entendu parler des dopes, et moi ça je ne l'ai pas vu, je l'ai lu depuis, mais je ne l'ai pas vu. Et les autres étaient souvent tués, ils étaient tellement amouchés qu'il y avait la fameuse corvée de bois, que vous savez ce que c'est, qu'on faisait semblant d'aller prendre le bois, les îles ont pu s'échapper. Et puis...
Psychologiquement, pour vous, c'était vécu comment tout ça? Pénible, non? Insupportable, ou vous en accommodiez?
On n'a pas été très fort, on était des lâches au fond, parce que moi j'ai jamais torturé, j'ai jamais tué, je crois pas que j'ai jamais tué, j'ai tiré de loin à des gens, mais je crois pas avoir tué. Mais on consentait au fond, on s'en accommodait, et maintenant qu'est-ce que tu pouvais faire aussi, avec le recul? Tu pouvais partir dans notre camp. Quel intérêt pour aller dans notre camp, tu les tiens? Moi, je n'y en vois pas. Et encore, il y avait le problème de la langue. C'est pas sûr que ça se soit bien passé quand tu serais arrivé là-bas. Il y avait, quand tu descendais à Tizi Ouzou, tu aurais pu rester en ville. Ça, c'était possible. Hein, tu me suis dissipé. Mais aller où? Déserter comment? Tout le monde savait qu'il y avait la torture, y compris nos hommes politiques, bien sûr. C'est pas à vous que je prends ça. Donc, tu aurais voulu quitter l'Algérie, comment tu l'aurais quitté, comment tu aurais pu te cacher quelque part? C'était pas évident. Je dis pas ça pour me disculper, mais je dis que c'était quand tu étais là-bas, dans cette merdier, c'était pas facile de t'en sortir.
Oui, d'autant plus que vous étiez isolé, vous n'apparteniez pas à une organisation politique qui aurait pu vous prendre en charge tout de suite. Oui, ça existait aussi.
Je ne savais même pas que ça existe, alors que ça existait, bien sûr. Et alors, il y avait la plupart quand même d'entre nous devenaient racistes et devenaient pas des tueurs, mais c'était difficile de discuter dans les chambres de ça, quoi. Et la torture n'était pas tellement approuvée quand même, c'était pas, mais il y en avait qui étaient pour, hein. D'être pour, de là à le faire, il y avait de la marge, il n'y avait pas beaucoup de gens qui le faisaient. Je parle de ça qu'on choisissait les gens et que oui, on choisissait les gens, quoi, parce qu'il ne fallait pas que ça se sache quand même. Chacun faisait sa torture dans son coin, quoi. Un sergent était capable de tuer quelqu'un en le torturant, il avait de contrat en la personne. Vous savez fort bien que l'armée avait les pleins pouvoirs, hein, donc.
Mon cœur jamais ne pourra s'en remettre. Pas de guerre coloniale, de légion en rosette. Pas un seul souvenir de Djebel, de Rizière, arrêté au banquet des anciens de la dernière. Mon général, j'ai mal et je n'y étais pas. Mais si j'en revenais, français, forcé, floué, peut-être que je me tairais. À l'heure du pousse-café, la mémoire se met à l'aise. La pacification apporta du nouveau. Les pucelles résistaient pas à vos marseillaises. Et la gégène au ventre, l'ennemi saluait le drapeau. Mon général, j'ai mal et je n'y étais pas. Mais si j'en revenais, français, forcé, floué, peut-être que je me tairais. Généraux, présidents, je vous fais cette lettre, et 20 ans après Vian, j'y crache mon dégoût. La victoire en chantant, enchantez-ils partir, et il n'y a pas longtemps, au Tchad ou au Zaïre. Mon général, j'ai mal et je n'y étais pas. Mais si j'en revenais, français, forcé, floué, peut-être que je me tairais.
Et la fin, pour vous, ça a été quoi? Au bout de 2 ans?
28 mois.
28 mois.
Un jour, je l'avais le petit papier, là, tu relevais les... Quand tu allais à Alger, tu achetais le journal, il y avait 58, tu n'as rien, libérable à partir de telle date. Et tu t'en verras, et puis là aussi tu es vachement déçu parce que tu arrives en France, personne ne te demande rien. Et si tu veux parler, on t'écoute une heure distraite, et puis on ne veut pas savoir. Et donc au bout d'un moment, puisque personne ne veut savoir, tu n'en parles plus. Et tu reprends ta vie, et tu fais avec. Voilà.
Les copains de là-bas, vous les avez retrouvés en France tout de suite après?
Non, oui, rien. Moi je suis gardé que... La Vernette, l'association avec qui on a gardé quelques relations, ben, on s'est retrouvés, disons, parce qu'on s'était perdu de vue.
Et vous vous retrouviez pour parler de ce que vous aviez vécu?
Non.
Juste pour la sympathie. Quoi.
On se retrouvait il y avait une année ou deux avant l'association qu'on s'était retrouvés, le hasard des choses.
Donc vous revenez, vous reprenez l'agriculture.
Oui,
votre père travaille encore ou il est retraité? Votre père travaille encore?
Non, moi je ne suis pas resté à la ferme.
Vous avez
pu. Je suis parti ouvrir une folle, puis je suis parti petit à petit, je suis devenu fermier, puis j'ai acheté une ferme dans le département à côté, dans le Tarn. Et voilà, et puis la vie continue, la vie te prend.
Une épouse, hein?
Vous vous mariez?
Oui, oui, trois enfants. Et puis justement, c'est un de nos fils là qui a fait l'association, quoi. Parce qu'il y avait un fils et deux filles, donc les filles tranquilles. Et le fils, lui, a eu l'âge de faire l'armée, il a dit moi je ne fais pas l'armée.
Alors, marié à quelle date? Vous êtes
les... Marié en 62.
62, et les enfants sont nés hein?
En 63, 66, 68.
Voilà. Donc c'est le premier de 63 voilà. Qui est arrivé à l'âge de la conscription. Voilà. 63, 83, il y a encore le service militaire, donc, et il refuse
voilà.
De...
Voilà. Et là, il refuse, il y avait plusieurs options, là, tu peux... Tu refuses totalement, tu es soumis total, là, tu vas en prison. Tu refuses le service militaire, tu fais objecteur, il n'y a pas de problème, tu fais 2 ans au lieu d'un. Ou alors, c'est ce qu'il a fait lui, tu lui demandes le statut d'objecteur et tu le refuses. Voilà, ça s'appelle ça, un objecteur insoumis. C'est moins grave que l'insoumis total, mais c'est quand même assez grave que ça se plaide pendant 10 ans.
Voilà, donc, parce que, donc il a demandé le statut et il a refusé de faire le service. Donc qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils envoient la gendarmerie pour...
Oui, non, ils te convoquent au tribunal. Il te faut expliquer pourquoi.
Ouais.
Donc, ils avaient choisi ça justement pour médiatiser la chose, parce qu'il n'était pas tout seul. Il faisait partie du COST, le comité d'objecteurs tarnés. Et le comité d'objecteurs tarnés, c'est des gens qui s'occupaient des objecteurs de conscience à l'époque, qui avaient commencé avec le Larzac. Et... Donc, si tu veux, ils ont décidé ensemble, puisque tu ne veux pas faire l'armée, ils étaient 2 autres avec lui. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire voir vraiment que... Voilà. Donc, ils ont choisi ensemble de faire objecteur insoumis, et voilà, et on te soutiendra.
Si vous en tuez 2-3 millions, on vous refile une décoration. Condamné ou félicité, c'est une question de quantité. Toi, petit Louis, t'es pas dans le coup. T'as pas voulu prendre les armes, t'as pas voulu en tuer du tout. Ils t'ont mis tous en cabane. Le sort a de ses ironies. Un monument, un boulevard ou une avenue, on lui donne généralement le nom des tueurs les plus connus. Un colonel, un général dont le nom s'en fond le sable chaud. Ça vous remonte le moral le matin pour partir au boulot. Mais je vois avec mélancolie qui a jamais le nom de petit Louis. Le sort a de ses ironies pour petit Louis. La mode revient militaire, aux soudards et aux traînes rapières, la panoplie de l'assassin s'épanouit dans les magasins. Du côté de Saint-Amand-Montrond, ton nom ne dit plus rien à personne. Le maire s'appelle Maurice Papon, c'est le matraqueur de Charonne. Moi je redis le nom de petit Louis, en contrepoint à la connerie. Le sort a de ses ironies pour petit Louis.
c'est comme ça que...
Et le tribunal, il a dit quoi, alors?
Et là, le tribunal, eh bien, la première fois, il a été relaxé.
Relaxé.
Tu vois, le méchant, il a fait appel. La seconde fois, il a pris un an de prison.
Qu'il a fait?
Qu'il a jamais fait. Parce que Chirac, ou Mitterrand, je ne me rappelle plus qui c'était à l'époque.
81, c'est Mitterrand. C'est...
C'était Mitterrand.
Oui.
Qui l'a relaxé. Pas parce qu'il s'appelait Pierre Serre, mais parce qu'il a relaxé tous les gens dans son cas. Mais ils ont encore fait appel. Donc la seconde fois, il a encore pris dans un trou. Il s'est caché en Espagne parce qu'il avait vu Mitterrand. On peut Mitterrand, l'amnistie est juste.
En Espagne, il n'a pas pu rester en France.
Ah ben non, mais il y a des jours, il y a eu une, au Bled Rouné, Castelnau-Romiral, pour dire non. Il avait une convocation. J'étais allé chez lui, lui disant, dimanche, tu viens chercher un papier qui te concerne. Et donc, prudent, parce que commencer à savoir, il ameute tous les gens du côte, et on se retrouve 250 à 300 personnes devant la gendarmerie d'un petit village. Et donc, il rentre, d'abord, on voulait rentrer tous, ça, ils n'ont pas voulu. Donc ils ont accepté que ce soit le plus vieux qui rentre, c'était un gars qui aujourd'hui est mort, qui avait été objecteur lui-même. Et ils sont rentrés, et il a dit, vous êtes sous mandat. Et le vieux, oui, parce qu'il était vieux, il a dit, mais vous m'arrêtez aussi, moi. Et puis ils ont parlementé, et ils ont dit, il y a 250 personnes devant la gendarmerie, il y a des femmes, des enfants, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est un image, ils ont téléphoné au procureur à Toulouse et tout ça. Et là, il y avait FR3, je pense que c'est ça qui l'a sauvé, parce qu'ils avaient été prudents, ils avaient convoqué tout ça. Donc devant l'ampleur des manifestants, parce que c'était vraiment une grande manifestation, il n'y avait plus de gens que dans le village. Ils l'ont relâché, mais le lendemain, ils sont été chez lui pour l'arrêter. Quoi. Mais ils étaient partis en Espagne.
C'est parti. Le Côte dont vous avez parlé, j'allais dire, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Qui étaient les gens qui avaient organisé tout ça? C'était pas seulement... Il y avait des organisations comme l'Arche, comme PSU, je sais pas...
Non, je pense que le Côte est autonome. Le
Côte autonome, est
un truc par lui-même, il tourne encore.
Oui.
Hier soir, il y avait une réunion sur le nucléaire organisée par le Côte. Donc, j'ai vu aujourd'hui, ils font autre chose. Ils s'encontrent, ils sont pour le désarmement, ils travaillent des fois avec Greenpeace, là, ils font des trucs spectaculaires. Oui.
Je pose cette question parce que ici à Lyon, aujourd'hui on n'en parle plus tellement, enfin il n'y a pas, de corps. Et même ailleurs, j'ai.
Bon, plein de seuls trucs qui sont restés dans France à l'époque.
Oui, ça a l'air très actif dans le Tarn, mais ailleurs, beaucoup moins. Quoi.
Je pense qu'il y a plus tard. Ils sont tous là.
Les gens.
Ouais, ils font pas. Et alors, moi, Pierre, notre fils, m'avait dit de témoigner. Et alors, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je témoigne? Moi, j'ai fait la guerre, j'ai pas grand-chose à dire. Moi. Et il m'a dit, justement, il te faut témoigner en disant l'absurdité de la guerre, donc, par ce fait-là, l'absurdité du service militaire, puisque c'était une préparation à la guerre. Et alors, je lis là, le truc, là, ce que j'ai fait, là, je vais pas le lire, hein, mais j'ai fait un témoignage disant ce que j'avais fait un peu à la guerre. Et j'ai commencé comme ça. Je suis un con, le caporal intelligent, parce que chaque fois que je me faisais une pompe, il te faisait dire ça. Et si vous voulez le dire, après, vous pouvez le dire.
Et témoignage à quel endroit? Au tribunal?
Au tribunal, oui. Mmh. Moi, je n'avais jamais été à la barre, ni rien, je ne sais pas ce que c'était. Moi, je savais pas trop. Aujourd'hui, j'ai un peu pris l'habitude, mais j'étais un manuel. Mmh. Et alors, ça a dû plaire, parce que tout le monde a applaudi au tribunal, donc il ne faut pas trop applaudir. Et puis, je ne dis pas qu'il a été relaxé à cause de ça, mais je pense que ça y a contribué.
Oui. Voilà. Vous aviez évoqué votre père aussi, la guerre de 14.
Ouais, Et mon grand frère, qui a 19 ans de plus, il a été à la STO. Donc on a loupé aucune. On a fait tout. Voilà, donc voilà, et alors après, à 65 ans, il y avait cette retraite qui arrivait là, si tu la demandes pas, on ne te la donne pas. Et alors un jour...
La retraite du combattant.
Du combattant. Et moi j'ai dit, cette retraite, moi je ne sais pas, c'est le point. Quoi. Trop de trucs qui te remontent, ça fait encore les tripes là, alors que ça commence à se calmer. Et puis j'en parle au côte, j'ai dit voilà, j'ai explique qu'on avait cette retraite et que moi je n'aurais pas mis à toucher, qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, très bonne idée, tout le monde sautait là-dessus, il faut le médiatiser, il faut faire des conférences de presse, il faut dire pourquoi, il faut le refuser, dans le bon temps, il faut le refuser.
On était en quelle année là?
On était en 2003. Et après, on a décidé de la prendre, et puis bon, j'ai essayé, et ce serait mieux si. Si vous étiez plusieurs, alors j'ai trouvé trois autres. J'étais quatre en même temps. Et voilà comment. Et alors nous, on ne savait pas faire, nous, on n'était pas, tu sais, l'ordinateur à l'époque, moi, je touche un peu maintenant, mais à l'époque, je ne touche pas. Et la logistique, tout ça, tu veux, conférence de presse, convoquer les journalistes, c'est le code, quoi, c'est le code qui. Moi, je le dis souvent, hein, j'ai aucun, toute franchise, c'est le code qui sans le code, l'association n'aurait pas existé. C'est lui qui nous a.
Mais ce code, c'était pas uniquement des anciens objecteurs, c'était des gens qui soutenaient des anciens.
Ah, des blessures, il y a de tout là-dedans, il y en a qui n'ont pas été objecteurs du tout. Ouais. Des gens qui sont branchés anti-militaristes, voilà, anti-militaristes, on peut dire ça. Et puis j'étais devenu ami là avec un enseignant, le nommé Guy David, avec qui lors du procès de Pierre, là, j'étais devenu un ami, quoi. C'est à lui que j'en ai parlé, j'ai dit qu'est-ce que je fais. Et moi je dis que l'association, elle est là le jour du procès de Pierre, quoi, voilà, elle est là. Quoi. Et que après, si tu veux, ça te remue, ça te travaille. Et que l'association, c'est pas moi, surtout pas moi qui l'ai créé tout seul. Hein. Il y a des gens autour de moi qui. J'ai lancé l'idée.
De toute façon, les trois autres personnes, sans détailler leur parcours, avaient vécu quelque chose de similaire à vous. Quoi. Ils
s'étaient
oui, trouvés.
Oui, on parle d'Elso, il te dit, moi j'ai pas connu une balle. Hein. Il te dit, moi je suis contre la guerre et j'adhère pleinement à votre association, mais moi j'ai pas souffert en Algérie. Oui, bon, plus ou moins bloqué, comme mon Bernet, il était armurier, mais bon, il était dans le bled, en tout cas, il a vu des choses. Quoi. Voilà. Et Georges Triou aussi a vu la guerre de près, quoi. Il a vu la guerre, il a vu les massacres. Mmh.
Qu'est-ce qu'est sur la route, écrasé sans doute, un petit lapin blanc. Tout le monde passe, personne ne ramasse, c'est pas important. Jette ton cartable, gamine adorable, ton ventre de sable. Va pisser le sang, et pour la vermine, petite lapine, saute sur une mine, et meurt doucement. Qu'est-ce qu'est sur la route, écrasé sans doute, un petit lapin blanc, au jeu de la chasse. Tu laisses des traces et tu es perdant. Un pauvre cortège cache dans la neige une robe beige couverte de sang. Qui donc se souvient encore ce matin du petit lapin qui était dedans? Qu'est-ce qu'est sur la route, écrasé sans doute, un petit lapin blanc, sa tendre carcasse, tente le rapace, pour s'y faire les dents. Lapin des rizières, plisse tes paupières, devant la rivière. Tu offres une palme au dieu du napalm. pour qu'il soit content. Qu'est-ce qu'est sur la route, écrasé sans doute, un petit lapin blanc, encore une race qui n'a pas sa place parmi les vivants. Noël, c'est la trêve, et le jour se lève, mon lapin, tu crèves dans les draps de sang. Je vais te creuser un petit terrier pour te reposer et dormir longtemps. Qu'est-ce qu'est sur la route, écrasé sans doute, un petit lapin blanc. Tout le monde passe, personne ne ramasse, c'est pas important.
Et voilà comment a démarré l'association, et puis petit à petit, il y a Daniel Mermet qui est venu, qui nous a, un jour, moi je reçois un coup de téléphone, Daniel Mermet, j'ai dit, c'est vous ta gueule, c'est là quoi. Donc voilà, après bon, il a rappelé que c'était sérieux quoi, parce qu'on l'avait convoqué là, quand même à la conférence de presse, le jour où on a lancé notre truc, on lui avait dit, enfin, quoi, t'avais dit, il faut dire l'association. Et voilà, et c'est là, il y a eu pas mal d'adhésions quand même à la suite de ça. Il y a eu une trentaine ou quarante adhésions, et puis voilà comment on a réduit, on est 120 ou 130 sur toute la France, plus les amis, ça fait 220 ou 230 personnes.
Votre idée quand vous avez créé l'adhésion, créé l'association, pardon, c'était quoi? C'était de faire de l'antimilitarisme, du pacifisme, vous avez
c'était cette retraite, cet argent qu'on ne
c'était
pouvait pas prendre.
C'était le genre de retraite qui posait problème.
Moi, nous, on a dit, moi, j'ai dit que cet argent, il était... J'aime pas dire qu'il était sale, parce que s'il est sale, tu ne peux pas le donner aux autres. Et cet argent est taché de sang, il est taché de tous ces cris d'horreur qu'on a entendus, de cris de torture, il est taché de cette misère, de cette mort qu'on a vue. Et cet argent, moi, je ne peux pas, je vais prendre cet argent pour faire des cadeaux de Noël à mes petits-enfants. Tu vois. Je préfère ne pas y en faire, tu vois, si je dois le faire avec cet argent. Voilà, au début c'était ça. Après, on y a greffé, on a dit, on va peut-être essayer de rencontrer des moujahidines, de se réconcilier avec ce peuple, d'essayer de faire quelque chose, mais c'est venu après. C'est venu après, après on a dit qu'est-ce qu'on fait. D'abord, qu'est-ce qu'on fait de cet argent, puisqu'on ne le prend pas. La première année.
C'était pas des grosses sommes quand même, elle n'est pas énorme la retraite du combattant.
Ça fait 600 euros par an.
Oui.
600 euros par 130, ça commence à faire des sous. Enfin, ça commence à faire des sous, tout est relatif. Tiens, ça va pas changer le monde, on va pas répéter le CAC 40. Mais voilà, la première année, on ne savait pas qu'en faire, justement. On avait 4 chèques de 500 euros, ça fait 2000 euros. Et il y avait un convoi tchétchène qui partait pour le pays d'à côté, là, pour secourir les enfants. Ils se réfugient en Angouche, comment c'est le pays à côté de la Tchétchène?
Ingouchi, là?
Oui, peut-être. Mm. Et donc, ce convoi tchétchène, il y a des gamins là, qui sont des réfugiés tchétchènes, qui sont même pas de quoi bouffer, et on savait que cet argent partait en convoi, c'est-à-dire qu'il allait directement là-bas. Donc on l'a tourné là. Et puis petit à petit, on a dit qu'il faudrait peut-être plutôt le donner à l'Algérie. Et puis, dans les adhérents, il y en a qui sont pro-palestiniens. Donc aujourd'hui, on s'est fixé deux trucs, la Palestine et l'Algérie, et puis voilà. Puis, comme vous dites bien, on n'est pas si riche, on n'arrive pas à distribuer rien que là. Hein.
Mm-hmm. Donc, en fait, vous versez l'argent, vous vous impliquez aussi personnellement dans. Vous allez sur place, vous participez à des actions sur les lieux où l'argent est utilisé ou pas trop finalement?
Nous suivons tous les projets. On appelle ça des projets, quand il y a un projet qui est mis en marche, eh bien, il y a un de nous dessus. Voilà, pour ma part, moi je suis bien content, je suis agriculteur, donc je suis un projet agricole. Et le village de Tazla, il est perdu au fond de la petite Kabylie. Là, quand vous arrivez là, la route s'arrête. Donc, il a été bombardé pendant la guerre, il a été en zone interdite, et petit à petit, on a reconstruit ce village. Donc, pour ma part, je suis allé 4e fois à cela. On a participé, j'ai bien participé, on n'a pas acheté un car pour venir à l'école, puisque aujourd'hui il y a 17 familles qui vivent dans ce village, qui sont revenues après l'avoir reconstruit. On a participé à capter les sources de montagne pour arroser les cultures rivières. Ça descendait par une rigole ouverte, il y avait beaucoup de chutes, donc on a mis un tuyau en plastique. On a participé à faire un château d'eau pour que les gens aient l'eau potable dans la maison. On a participé là plus fortement, parce que je crois qu'on a tout payé, à acheter deux clôtures électriques pour entourer les jardins potagers, pour
protéger les bêtes.
Ils semblaient qu'ils bouffaient tout, et soi-disant qu'on ne pouvait pas les arrêter. Moi j'ai dit en France on les arrête, avant on ne pouvait pas les arrêter, c'est pas les mêmes, vous savez. Donc on a fait, ils sont contents parce que ça marche, à part quand les soi-disant terroristes piquent les panneaux solaires, puisque ces clôtures électriques marchent avec les panneaux solaires. Et après ça marche plus. Mais bon, on les a remplacés. Et après, on a, à travers ces actions, à travers ces projets, moi j'avais toujours rêvé de rencontrer un ancien combattant, celui qui m'avait blessé, je dis.
Symboliquement.
Voilà. Et donc, à travers les actions que nous avons menées, à travers BD, qui est une association qui s'occupe de la biodiversité en Afrique, et un des salariés de BD est d'origine kabyle, il est né pas loin du village de Tassla. Il connaît les us et coutumes, il sait ce qu'on peut faire et ne pas faire avec les femmes, avec les enfants, avec ce qu'il ne faut pas dire, avec la mort des terroristes. Là, on dit qu'il y a des terroristes, parce que voilà, ça aussi, c'est compliqué. Mais voilà. Et donc, avec lui, on a pu rencontrer déjà Jody Atomi. La première fois qu'on est allé là-bas, on a rencontré un ancien combattant. Alors, quand on était quatre, il y avait Nordine, il y avait une dame qui s'occupait à l'époque de le secrétariat de l'association du Côte, et la quatrième, je ne sais plus, peu importe. En tout cas, on s'est donné rendez-vous à Bougy, sur la place célèbre, aide-moi. Bougy est le nom de la place depuis moi. La place Carlin, la place Carlin. Voilà. Et là, ce gars-là, il me dit, on lui sert, ouais. Je dis, ouais, je vous dis à Tony, et il m'a embrassé. J'ai pleuré, moi. Et j'ai dit, moi, il va raconter, non. Et puis, il a dit aux autres, si ça ne vous dérange pas, moi, je voudrais rester qu'avec lui. Et alors, il m'a pris, il avait la bougie, et il m'a pris dans sa maison, et avec sa femme qui n'était pas voilée, qui a mangé avec nous. Il y a quatre filles, il y en a une qui est morte depuis, mais qui n'était pas là. Et voilà, on a passé la soirée à raconter, et puis on avait rendez-vous avec les autres à 3h, et puis on n'avait pas fini. Voilà. Et alors j'ai dit, maintenant je peux mourir. Voilà.
Vous êtes réconcilié, voilà. Avec quelque chose de vous-même.
Ouais.
Ça vous empêche encore de dormir, ces mauvais souvenirs de votre jeunesse, ou
non,
pas aujourd'hui, vous allez...
Ça ne m'empêche pas de dormir, mais je m'intéresse beaucoup à l'Algérie, donc je lis des livres, je viens de lire tout à l'heure, je parlais avec Bernard, là, et je disais que j'avais lu le livre de Laurence Bourget, Une guerre sans gloire, et ça, oui, quand je lis ça, ça me... Je passe quelques moments, des fois, où j'ai du mal à dormir, mais sinon... Sinon, j'oublie, hein. Il faut oublier, de toute façon, enfin, je ne sais pas s'il faut oublier, mais...
Une action auprès des jeunes aussi, pour votre association?
Il me semble que nous devrions parler de cette guerre aux jeunes, puisque ce qui est fait, mais à travers la parole et notre action, si nous pouvions éviter quelques guerres actuelles ou futures, ce serait pas mal. Donc, en accord avec le professeur d'histoire de Montpellier, Madame Viau, avec qui nous avions discuté de cette association, et nous a proposé de faire une journée sur la guerre d'Alger. Et elle avait préparé ses élèves pendant un mois sur l'Algérie. Il y avait une équipe qui avait essayé de voir ce qu'étaient les harkis, une autre qui avait fait ce qu'étaient les pieds noirs, qui était l'armée, qui étaient les colons. Donc il y avait une douzaine d'équipes qui le matin se sont succédées à la tribune et nous ont présenté l'Algérie, comment ils avaient découvert l'Algérie. Et puis l'après-midi, nous étions deux anciens combattants d'Algérie de l'association des 4 ACG, Georges Trégou et moi-même, et un ancien combattant de l'ALN qui était Jordi Atouni. Nous étions à la même table. Déjà, avec tout ce qu'ils avaient dit le matin, voir deux anciens ennemis à la même table, ça parlait déjà tout seul. Et puis nous ont posé des questions, comment on avait vécu cette guerre et comment après, 50 ans après, on était à la même table, comment on pouvait se réconcilier, comment on pouvait pardonner. Et je citerai une phrase de Jordi Atouni, elle n'est pas de moi, donc je suis à l'aise pour la dire. Il leur a dit, parmi vous, vous êtes jeunes, vous êtes certains, sont rappelés à prendre une responsabilité importante. Et il a dit, peut-être vous aurez des hommes politiques. Sachez qu'on ne résout jamais le problème par la guerre. Et je trouve que cette phrase, rien que celle-là, ça valait le coup d'être dite. Et dans notre association, quand nous sommes demandés dans les écoles, nous intervenons. Nous intervenons pour dire l'absurdité de la guerre et surtout, ça ne résout jamais le conflit. Après la guerre d'Algérie, il y a eu les accords d'Évian, il a fallu se mettre autour d'une table, on aurait pu s'y mettre 7 ans, 8 ans avant. Et tu veux prendre toutes les guerres du monde, pour en finir, il faut discuter. Donc, ce travail-là auprès des jeunes me paraît très important. Et on voudrait aussi le faire à nous. Mais voilà, on ne l'a pas encore fait, et peut-être que ça ne dépend pas que de nous. C'est un pays encore qui est pas, c'est pas le calme plat là-bas, donc c'est pas évident de le faire. Voilà.
Et l'association Son Avenir, vous voyez comment, vous espérez fédérer de plus en plus de membres
ou... Je pense que nous avons une moyenne de 75 ans et que ça sent la tombe. Alors ce que nous essayons de faire là, pour le moment, qui me tient à cœur, c'est que l'an prochain, tous ceux qui voudront venir de l'association, et il paraîtrait qu'il y en aurait les femmes, tout ça, dans les 70-80, nous retournions en Algérie. Nous sommes en train de préparer activement ce voyage, une petite équipe. Là. Nous partirions là-bas avec des pieds noirs progressistes, c'est des pieds noirs que nous avons connus, des pieds noirs qui sont contre l'OAS, qui ne veulent plus entendre parler. Comme disent Pénois et Alouaïs, donc ils ont fait une association. Ils essaient de réfléchir sur le colonialisme, sur tout ce qu'ils ont fait là-bas, ce qu'ils n'auraient pas dû faire, ce qu'ils ont fait. Ils sont très proches de nos idées, donc on a rencontré ceux-là. On a rencontré des réfractaires. Les réfractaires, c'était des gens qui ne partaient pas en Algérie. Ils faisaient automatiquement 3 ans de prison, voire plus. Et bon, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, voilà, on les a rencontrés. Ces 3 associations, nous aimerions faire un voyage là-bas et rencontrer des anciens combattants. Nous aimerions aller à Sétif, et voir également, là où il y a eu le grand souvenir de mort, et faire une fête symbolique, surtout pas avec le président de la République ni son côté ni de l'autre, avec des simples citoyens comme nous. Si les autorités veulent venir dans la foule, on n'y voit pas l'inconvénient, mais on ne veut pas de discours officiel ni de grand flanflon. Et si on arrive à faire ça, à convoquer la presse, nous disons, et je dis que ce serait un bon pied de nez à nos hommes politiques respectifs, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui depuis 45 ou 50 ans n'ont rien fait pour se réconcilier avec ce peuple. Et nous, on ne fait pas grand-chose, mais on fait moins de ça. Et après, moi, je crois que même si l'association devait s'arrêter après ça, Et ben, je pense que le repas était, elle n'a pas existé pour rien, quoi. Et j'ajouterais que si, à travers cette association, à travers ce voyage, à travers ce que nous faisons, il y a un peu moins de racisme, un peu moins de la haine de l'arabe, parce que chez nous, c'est plutôt rural, et je crois que moins il y a des arabes, plus les gens sont racistes, parce qu'il y a la télévision, parce qu'on leur dit, parce que si. Et bien, s'il y a un peu moins de haine de l'arabe, moins de racisme, mais moi je trouve que, voilà, c'est... On n'aura pas, encore une fois, on n'aura pas existé pour rien.
Je vous remercie de cet entretien.
Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. Un jour, comme un oiseau, sur la plus haute branche. Quoi, toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme inutilement né, les blés déchiquetés, toujours des sauterelles. Quoi, les bagues toujours, et la chair sous la roue, le massacre toujours, justifié d'idole, au cadavre jeté, ce manteau de parole, le paillon pour la bouche, et pour la main le clou. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. Un jour, comme un oiseau, sur la plus haute branche.
Ainsi se termine cette émission, la deuxième d'une nouvelle série de deux consacrée à Rémi Serre et à l'association 4ACG. Cette deuxième émission avait pour sujet la suite de ce que fut sa guerre d'Algérie, puis comment, 45 ans après, il en est venu à être l'initiateur de la création de l'association 4ACG. Vous avez pu entendre successivement les illustrations musicales suivantes. La chanson « La question » de Maurice Fanon pour les paroles d'Arzi pour la musique dans l'interprétation de Pia Colombo. Puis c'est Francesca Solville qui chantait sur des paroles et musiques de Bernard Joyet, Djamila. Ensuite, vous avez entendu Jean-Louis Caya interpréter sa chanson « Mon général, j'ai mal ». Puis c'est Elisabeth, sur sa musique et sur des paroles de Roland Hainaut, qui interprétait la chanson « Petit Louis » en hommage à Louis Lecoing, l'homme qui obtint le statut des objecteurs de conscience de la part de Gaulle, après une grève de la faim. Jean-Michel Piton interprétait ensuite sa composition « Les petits lapins blancs », et puis pour terminer, c'est Jean Ferrat qui, sur sa musique et sur les paroles de Louis Aragon, interprétait sa chanson « Un jour, un jour ». Nous remercions Rémi Serre d'avoir bien voulu accorder cet entretien à Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, et plus particulièrement à l'intérieur de celle-ci, à l'émission Bistantlac. Bonsoir.
son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Biston Clark. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Biston Clark. Qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en main mettre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps. Qu'une chance qu'on les vise, mais on les claque.
Thank you. son frère et son enfant. Quand un humain s'enflamme, c'est distant, clair. C'est pas de la rengaine à gaver les passants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, clair. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se raidissent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais on les claque. On se bise.